Les informations, Asia Chipoukou.
Au sommaire ce lundi, élection présidentielle en RDC, jour J-34. Où en est-on avec le déploiement des kits électoraux à l'intérieur du pays? Zoom sur cette question dans ce journal à Kisangani et à l'Équateur. À Tertoma Lubanga, la chambre préliminaire de la CPI a siégé vendredi passé en séance d'information entre le procureur et les avocats. Ces derniers demandent une enquête supplémentaire sur place en RDC. La requête de ces avocats sera étudiée par les juges. Entre-temps, l'audience de demain est reportée pour le mois de septembre. La radio et télévision belge RTBF en FM à Kinshasa à partir de ce lundi. La communauté française de Belgique veut ainsi contribuer au rayonnement de la francophonie et de la solidarité entre les deux pays. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition du journal en français sur Radio Okapi. À un mois des élections présidentielles en RDC, où en est-on avec le déploiement des kits électoraux à l'intérieur du pays? Le point sur cette question d'abord en province orientale. La commission électorale indépendante confirme l'acheminement des kits, matériel des élections et autres bulletins dans tous les districts et territoires de cette province. Selon le coordonnateur provincial de la CEI que nous avons joint hier dimanche, il ne reste plus qu'à déployer ces matériels et bulletins dans les 6000 bureaux de vote à travers la province avant le 30 juillet 2006. Explication de Léon Jacques Mwamba.
À la différence des opérations de référendum du mois de décembre dernier, la commission électorale indépendante, avec l'appui de la communauté internationale, a réussi à déployer les matériels électoraux à temps. La MONUC les a déployés vers les chefs-lieux des districts et des territoires de la province orientale. Il revient à la commission électorale indépendante de déployer ces matériels, le bulletin et son personnel vers le centre où la MONUC ne s'est pas arrivée. Jean Otemikongo Mandefou, coordonnateur provincial.
Les matériels sont déjà déployés vers les chefs-lieux des territoires et des districts. Il nous reste à cette date, avec l'appui du bureau de la commission électorale indépendante, de mettre en œuvre le plan tertiaire qui va nous permettre de déployer ces kits électoraux vers les 1000 centres de vote et les 6006 bureaux de vote et de dépouillement qui doivent être implantés dans l'ensemble de la province orientale. Outre les kits électoraux, les bulletins de vote sont déjà ici à Kisangani et sont déjà déployés vers l'intérieur de la province avec l'appui de la MONUC.
La commission électorale va s'appuyer sur les structures locales, notamment les confessions religieuses, les opérateurs économiques, la population et sur ses moyens propres pour le déploiement de ces matériels. Signalons que le nombre de bureaux de vote pour la province orientale est passé de moins de 3 000 à 6 000. Ceci pour faciliter le déplacement de la population le jour de vote. Kisangani, Léon Jacques Mwamba, Radio Okapi.
Si à Kisangani, les matériels ont été déployés à temps, il n'en est pas encore le cas à l'Équateur. Là, le déploiement des matériels électoraux aux centres et bureaux de vote va commencer le 13 juillet prochain. L'heure est à la formation des chefs de centres de vote. Pendant ce temps, la CEI provinciale a introduit une demande d'argent afin de pouvoir couvrir tous les centres de vote dont le nombre a été revu à la hausse par rapport au nombre qu'il y a eu pendant le référendum. Écoutons à ce sujet Albert Mayoka, coordonnateur du bureau de représentation provinciale de la CEI Équateur. Il est au micro de Dominique Wolombi Mungampangi.
On ne peut pas commencer cette opération qui est prévue à partir du 13 sans que l'on informe les chefs de centres de vote qui vont être impliqués dans la réception de kits au niveau de leur centre. Ils ne sont pas encore formés. Nous venons de terminer le recrutement et la formation est en train de commencer la semaine prochaine.
Présentement, vous êtes à quel niveau?
En fait, la CEI prend ses responsabilités à partir des chefs-lieux des territoires vers les centres de vote qui jadis étaient le centre d'inscription des élèves. Nous allons utiliser les mêmes moyens, mais il faut encore ajouter un peu plus de moyens dans ce sens que le volume de matériel à déployer a augmenté parce que le nombre de centres de vote est supérieur à celui des centres d'inscription. Il va falloir que l'on puisse augmenter également les moyens logistiques ainsi que les moyens financiers. Les budgets ont été déjà présentés au niveau des décideurs.
Revenons à Kinshasa pour parler cette fois-ci des préparatifs de la campagne électorale. Celle-ci doit commencer dans 3 jours. Le gouvernement a octroyé pour la couverture de cette campagne 500 000 dollars américains sur les 4 millions de dollars demandés par la Haute Autorité des médias. Cela représente le 1/8 seulement de la somme demandée. Jusqu'à présent, la HAM n'est pas encore en possession de cet argent. Le président de cette institution d'appui à la démocratie estime que la somme octroyée est insuffisante pour couvrir toute la campagne électorale. Il demande au gouvernement de trouver une solution satisfaisante pour que la presse couvre toute la campagne électorale, qu'elle soit présidentielle ou législative. Modeste Moutinga, président de la HAM, joint au téléphone par Kelly Kouté.
Cette intervention s'avère insuffisante parce qu'elle ne peut couvrir que la campagne présidentielle au premier et deuxième tour. Nous sommes très embêtés et nous ne serons pas régulés. La campagne à la députation nationale, les candidats à ce scrutin ayant les mêmes chances que les autres candidats, leur campagne devrait être aussi financée. Le débat continue au niveau de la haute hiérarchie du pays. Nous pensons qu'une solution satisfaisante sera trouvée. Si on n'a pas de solution, je vous assure que le gouvernement aura failli à sa mission parce qu'on ne sera pas sur une campagne équitable pour tous. On ne sera pas assuré les mêmes chances à tout le monde. Ça va être une violation de la loi électorale et pourquoi pas de la Constitution de la République.
Toujours dans le chapitre électoral, l'Observatoire des médias congolais, OMEC, a organisé une session de formation pour les journalistes à Lubumbashi. Objectif, vulgariser le guide pratique de la déontologie journalistique en période électorale et assurer l'implantation d'une antenne provinciale de l'Observatoire national des médias dans le chef-lieu de la province du Katanga. Plus de 60 journalistes sont concernés par cette formation. Donam Baya, président des journalistes en danger et orateur, explique les motivations qui ont concouru à l'organisation de cette formation. Il est au micro de Madeleine Waila.
Le niveau, de manière générale, est très bas. D'abord, à la question de savoir combien de gens ont déjà lu le code d'éthique et de déontologie, c'était moins de 3% de la salle. C'est déjà une inquiétude. Comment on peut être dans une profession sans jamais lire les règles qui régissent la profession à laquelle on prétend appartenir? Et même dans les débats, vous sentez que les gens reviennent sur des questions qui sont réglées par le code d'éthique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris beaucoup. Il fallait revenir dessus en puisant des exemples dans leur pratique quotidienne ici au niveau de la province du Katanga. Et je pense qu'il faudra vraiment multiplier des sessions de formation dans la collecte, le traitement de l'information. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de faiblesses à ce niveau-là.
Pendant ce temps, à Kinshasa, on apprend que les évêques catholiques du Congo ont publié une lettre pastorale. C'était à l'issue de la réunion ce week-end de leur comité permanent. Cette lettre pastorale est intitulée « Pour une fin de transition apaisée, le peuple avait le cœur à l'ouvrage ». Elle donne un certain nombre de propositions pour les concertations demandées par les acteurs politiques. L'essentiel de la lettre pastorale des évêques avec l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo.
Dans ces documents, les évêques soulignent que l'impératif doit être clair. Ils tiennent absolument à l'organisation des élections dans un climat de vérité et de transparence. Les évêques saluent les pas significatifs qui ont déjà été posés dans ce sens, notamment avancer dans la préparation des matériels des élections de la part de la CEI et même aussi l'appui logistique de la communauté internationale et les séminaires interinstitutionnels. Ils font quelques propositions pour l'ordre du jour de ces concertations, notamment trouver un consensus pour définir la durée de la transition au-delà du 30 juin 2006, prendre des dispositions nécessaires pour les modalités de gouvernement du pays pendant la campagne électorale à laquelle seront occupés la plupart des membres des institutions du pays, arrêter aussi les stratégies nécessaires à la formation d'une unique armée républicaine, voir aussi comment on peut régler dans la justice et l'égalité les problèmes d'inclusivité.
Concernant justement les concertations politiques que vient d'évoquer le porte-parole de l'Église catholique, le vice-président de la République en charge de la politique, défense et sécurité a relevé les raisons qui militent en faveur de la tenue de ces concertations, notamment les inquiétudes sur les dates du 30 juin et 30 juillet. Il reconnaît cependant qu'il reste à définir le cadre, la matière et le format de ces concertations qui ne devront pas être un nouveau dialogue intercongolais, mais devront être inclusives et se dérouler en présence des témoins étrangers. Azarias Roubérois y reviendra tout à l'heure à 8h30, heure de Kinshasa, dans l'invité du jour de Radio Okapi. Affaire Thomas Lubanga, l'audience prévue pour demain mardi a été reportée au mois de septembre prochain. Vendredi, la chambre préliminaire de la CPI a tenu une audience publique. C'était une audience d'échange d'informations entre le bureau du procureur et les avocats de Thomas Lubanga. Question de permettre à chaque partie de travailler à armes égales, les avocats de Lubanga ont demandé une enquête supplémentaire en RDC. Explication avec Paul Madidi, chargé de la communication et des programmes de sensibilisation au bureau de la Cour pénale internationale à Kinshasa. Il a été joint par Claude Bousset.
Au cours de cette audience, la partie défense a fait une motion demandant de descendre au Congo pour mener une enquête. La question va être étudiée par les chambres, c'est-à-dire les juges qui vont décider, voir l'opportunité de cette descente en République démocratique du Congo. Mardi, c'est le 27 juin. Normalement, il n'y a pas d'audience. Cette audience qui avait été prévue pour la confirmation des charges a été renvoyée en septembre.
À Kananga, une ONG féminine encourage les femmes victimes des violences sexuelles. L'Action pour la protection des droits de la femme et de l'enfant, APDFE en sigle, a remis des brevets d'aptitude professionnelle à environ 10 femmes qui ont suivi sa formation. Durant toute une année, ces femmes ont été encadrées en coupe et couture. Elles ont aussi appris à lire et à écrire. Les détails avec André Kambala.
Pour ces 9 femmes lauréates du jour, les brevets d'aptitude professionnelle couronnent leur formation de toute une année et marquent une ouverture dans leur vie. Véronique Ngalula, l'une d'elles, se dit désormais apte à contribuer au budget de son ménage sans toujours attendre les seuls efforts de son conjoint. Pour Aimé Bakatombamba, présidente de l'APDF, cette formation vise à renforcer les capacités des femmes dans leur intégration sociale et surtout leur ouvrir la porte en ce qui concerne la prise de décision. Elle s'avère bénéfique dans l'engagement des femmes au cours de ce processus électoral. Aimé Bakatombamba déplore cependant le manque de locaux appropriés à ce centre de l'APDF, centre qui, selon elle, faciliterait l'organisation de ce type de formation les années à venir. En attendant, les lauréates de la deuxième promotion vont, comme leurs aînés, se retrouver dans le locaux de la paroisse catholique Loulou à Sainte-Marie, situé à environ 5 km du centre-ville. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Nous vous le disions en titre, la RTBF désormais disponible en FM à Kinshasa. La communauté française de Belgique vient d'installer dans la capitale de la RDC un émetteur en fréquence modulée qui permet de diffuser les programmes de la radio-télévision belge francophone internationale. L'inauguration officielle de ce relais intervient ce lundi depuis le centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Cette nouvelle antenne, qui émet sur 99,2 MHz, est un moyen pour la communauté française de Belgique de contribuer au rayonnement de la francophonie. Elle est aussi un signe de solidarité entre expatriés belges et congolais vivant en Belgique. Joint au téléphone par Emine Seya, le rédacteur en chef adjoint de la RTBF Radio, François Rexman, explique la finalité de cette innovation.
Ce que nous a apporté de nouveau, c'est nous-mêmes tout simplement. Si Radio France Internationale, la BBC ou la Voix de l'Amérique ont une antenne FM ici à Kinshasa, je dirais après tout, pourquoi pas la RTBF. Nous venons ainsi dans une très très grande ville francophone, qui est la première ville francophone d'Afrique noire. Nous venons aussi dans une ville où il y a énormément de liens avec la Belgique. Alors notre programme RTBF International, c'est actuellement un mélange avec d'une part notre chaîne d'information où nous faisons de l'information sur la Belgique mais aussi sur l'international et nous avons une attention particulière à ce qui se passe en Afrique centrale et nous allons diffuser toutes nos informations classiques que nous faisons sur l'Afrique centrale, par exemple les reportages que nous comptons faire dans le cadre des élections. Ce sera à partir de la Belgique, nous avons une expertise sur l'Afrique centrale, nous sommes quelques journalistes à la rédaction qui connaissent le terrain Afrique centrale et nous travaillons notamment avec deux correspondants sur Kinshasa.
Actualité internationale à présent, un premier pas vers la fin du conflit somalien. Un accord a été signé jeudi à Khartoum entre le gouvernement somalien de transition et les milices islamistes. Le texte prévoit une reconnaissance mutuelle et la fin des hostilités. Cet accord a été obtenu sous la houlette de la Ligue arabe qui s'inquiète de l'instabilité croissante en Somalie. Les négociations doivent se poursuivre le 15 juillet prochain. Une Algérienne à l'Académie française, Assia Djebar, est la première personnalité du Maghreb élue à l'Académie française. C'est jeudi dernier que cette écrivain tunisienne a été reçue sous la coupole. Une femme ordonnée prêtre catholique malgré l'interdiction du Vatican, cela s'est passé samedi dernier en Suisse. La première prêtresse catholique suisse est une théologienne, mère divorcée de 4 enfants. Elle n'était pas seule, deux autres femmes ont été ordonnées prêtres avec elle. La cérémonie a été organisée sur un bateau entre l'Allemagne et la Suisse. C'est donc par là que nous mettons un point final à cette édition. Retrouvez-nous sur notre site internet www.radiookapi.net. Okay.